mauvaise conclusion. Vous avez vu toutes les mauvaises conclusions que j'ai tirées. C'était parfois un petit peu caricatural, mais voilà, ça peut arriver. Parce que, en fait, le problème de la Bible, bien sûr qu'on peut le lire comme un livre, comme un autre, il n'y a pas de souci. Mais le problème de la Bible, c'est quand même un livre d'alliance, un livre de relation entre nous et Dieu. Ça parle d'une relation, avant tout, d'une relation entre nous et Dieu. Et du coup, si on n'est pas dans cette perspective, bien sûr, on peut le prendre pour un livre d'histoire, ou quelqu'un va dire, ah, mais il n'est pas précis, nanana. On va le prendre comme un livre de science, oui, mais là, il y a des tas de choses. Bon. On va trouver des tas de choses, mais l'idée, c'est que la Bible est un livre de relation, la relation de l'homme à Dieu. Et ce qui était très important autrefois, qui est toujours important, mais on en parle moins, c'est un livre d'alliance entre Dieu et les hommes. Et du coup, il faut le lire dans cette perspective parce qu'il est fait pour ça, pour marquer l'alliance entre Dieu et les hommes. Du coup, l'importance, comme je l'ai dit, de prier avant. Prier, c'est parler à Dieu, c'est avoir une relation avec Dieu. D'écouter aussi ce que Dieu dit à notre cœur. Et aussi de bien connaître l'ensemble de la Bible. Vous vous souvenez, on peut arriver à des conclusions complètement... Vous avez vu, certains ont ri, mais c'est vrai, des conclusions complètement idiotes quand on ne connaît pas la Bible et qu'on essaie d'expliquer avec ce qu'on sait, etc. Voilà, donc c'était le but. Donc j'espère que j'ai choqué personne. J'ai réfléchi après en me disant que c'était peut-être un peu caricatural. Il y a peut-être des gens qui ont été un peu choqués. Voilà, le but était vraiment de vous faire réfléchir et de vous montrer à quel point, quand on lit la Bible, il faut vraiment se mettre au diapason de cette alliance avec Dieu. Alors, on va reprendre rapidement le texte avec le bon commentaire, tout au moins celui que je peux faire le mieux possible. Ça ne sera jamais parfait, bien sûr. Voilà. Donc, on va reprendre le texte de Samuel 28 en commençant au verset 3. C'est marrant, on ne sait pas exactement qui est l'auteur du livre de Samuel, mais il était organisé, je trouve. Avant de nous raconter l'histoire de Saül, il va nous dire les choses qu'on a besoin de savoir, celles dont il faut se rappeler. Et il commence en disant, Samuel était mort, tout Israël s'était lamenté sur lui, on l'avait enseveli à Rama dans sa ville. Ouais, c'est clair, c'est précis, c'est rapide. Et on peut se dire, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Si on a lu la Bible dans l'ordre, on l'a vu quelques chapitres avant, c'était déjà dit, je crois, c'est 2 ou 3 chapitres avant, donc. Pourquoi il le redit là? Eh bien, dites-vous toujours quand vous lisez la Bible, quand il y a une redite, il y a une raison. Toujours. C'est très curieux, hein, mais il y a toujours une raison. Eh bien, la raison, c'est que l'auteur veut nous rappeler quelque chose pour comprendre ce qui va se passer. 1. Samuel, le prophète, c'était quelqu'un qui avait dirigé le peuple pendant des années. Il avait été juge, ce qui à l'époque voulait dire leader. Donc il avait dirigé le peuple pendant des années, c'est lui qui avait donné l'onction royale au roi Saül, avant de mourir, hein, bien avant de mourir, il avait oint Saül, il avait aussi oint David après. Dans les moments difficiles, c'était toujours auprès de Samuel que Saül cherchait conseil. Alors vous allez me dire, c'était obligé évidemment, à l'époque, il n'avait pas trop le choix, c'est vrai. Et il s'est beaucoup reposé sur Samuel, même quand Samuel le grondait, mais bon. Et dans les moments difficiles, c'est toujours vers Samuel qu'il allait. Donc le fait qu'il soit mort, ça nous dit quelque chose. Saül se retrouve tout seul. C'était aussi lui qui transmettait la parole de Dieu très fidèlement. Parce que vous vous souvenez, la fois où Dieu lui a dit quelque chose, et il pleurait. Et Dieu lui a dit, non mais arrête de pleurer là, hein, vas-y. Et oui, il était très fidèle, même quand ça ne lui allait pas du tout. Il transmettait la parole de Dieu fidèlement et il priait pour le peuple. Il intercédait pour son peuple. Il aimait son peuple. En plus, son absence a créé un vide spirituel dans le pays. Il semble que personne ne l'ait remplacé. Alors j'ai cherché un petit peu, mais il semble qu'il n'ait pas été remplacé. Personne qui soit comme lui, capable d'écouter Dieu et de transmettre la parole de Dieu au peuple. Donc ça fait un vide spirituel énorme. Et une autre raison aussi, comme il était mort et qu'il n'était pas remplacé, on aurait pu penser, bon, il y avait les prêtres et les autres prophètes, mais il ne faut pas oublier que Saül, vous vous souvenez, avait fait tuer une grande partie des prêtres de Nob parce qu'ils avaient aidé David. Sa jalousie était allée jusque-là. Il avait carrément fait tuer les prêtres de Nob. Bon, là, c'est embêtant. Et Abiathar, souverain sacrificateur, donc celui qui priait pour le peuple, eh bien, il avait suivi David. Donc, il ne restait pas grand monde, hein, pour chercher conseil. Donc, vous voyez, à partir du moment où on dit Samuel était mort, tout ce que ça suppose, on réfléchit, on dit, bah, il n'avait personne vers qui se tourner, notre brave Saül. Bon, il est clair que le texte se situe dans une période où la parole de Dieu est rare. Il y en avait une autre, vous vous souvenez? Quelle époque où on disait la parole de Dieu est rare? Les juges. Oui. Et pourquoi est-ce que la parole de Dieu était rare? Bien sûr, là, on va dire ces messagers étaient tués, enfuis, décédés. Oui, mais c'est parce que chacun faisait ce qui lui semblait bon, aussi à cette époque-là. Et surtout le roi, Saül. Et on remarque aussi que le roi, il avait tendance à écouter les membres de la cour. Et c'est eux qu'il remontait contre David. Vous vous souvenez, on avait remarqué ça une fois, que David lui dit, « Mais écoute-tu, arrête d'écouter les gens qui te disent. » Eh bien oui, Saül était influençable. Alors j'ai bien réfléchi avant de dire ça, j'ai bien regardé les textes, et on sent que Saül est influençable. Et il a cette cour, ces courtisans qui sont autour de lui, et on va le revoir dans le texte d'ailleurs, et qui le guide à droite, à gauche, il se laisse faire. Curieux, hein? Et la deuxième chose que l'auteur va rappeler, et ça c'est aussi important, et il sait ce qu'il dit, hein, son texte est construit, c'est dommage qu'on ne sache pas qui c'est. La deuxième chose que l'auteur rappelle, c'est « Saül avait supprimé du pays les spirites et les médiums ». Alors on peut se dire, on ne le savait pas. Alors j'ai vérifié, effectivement, il n'y a pas d'autre endroit où c'est dit dans la Bible. Pourquoi est-ce qu'il nous dit ça ici? Ben, il y a une raison aussi. Chaque fois, vous pouvez dire « il y a une raison ». Eh bien d'abord, je crois que c'est un petit rappel. Dans le passé, je pense que Samuel a dû être un homme extrêmement rigoureux dans l'application de la loi de Dieu. On a déjà remarqué dans toute son histoire qu'il avait une fâcheuse tendance au légalisme. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous vous rappelez cette fois où il y avait la guerre encore avec les Philistins, et qu'est-ce qu'il décide? Personne ne mangera avant la fin de la bataille, etc. Son fils, Jonathan, n'avait pas entendu cet ordre, parce qu'il venait d'ailleurs, je crois. Et lui, il trouve du miel dans la forêt et il le mange. Et évidemment, il a risqué la mort, on connaît l'histoire. Et heureusement que le peuple l'a défendu. Vous voyez, il avait une tendance comme ça. Oui, mon fils, il a osé manger, etc. Et après, le peuple lui dit, mais attends, c'est grâce à lui qu'on a eu la victoire. Arrête, tu ne vas pas le faire tuer. Mais allez, c'est comme ça, tant pis si c'est mon fils. Il doit être tué. Heureusement que le peuple l'a sauvé. Il y a un autre moment où il exige que les animaux soient sacrifiés rituellement comme il faut le faire, c'est-à-dire sur une pierre, et pas comme ça sur le sol. C'est dégoûtant. Bon, il n'avait pas forcément tort, mais on sent qu'il cherche, comme on dit, la petite bête. C'est quelqu'un qui, il faut faire comme ça, on fait comme ça. Et comme disait André tout à l'heure, c'est pas l'être qui lui importe, c'est le faire. Il faut faire comme il faut. Ouais, l'être, on a vu que c'était pas son problème. Et un autre point qui va nous rendre service aussi après, c'est que quand il voit que Dieu ne répond pas, il cherche qui est l'obstacle. Parce qu'il a un mécanisme dans la tête. Il a des trucs qui fonctionnent mécaniquement. Et Dieu ne répond pas, donc qui est l'obstacle? Évidemment, ça va être Jonathan parce qu'il a mangé du miel. Donc vous voyez, il a un côté très légaliste, très sur le faire. Et c'est là que j'ai compris, à retardement, vous voyez, c'est ça qui est bien avec la Bible. C'est qu'on fait un texte, on l'a étudié ensemble, j'ai travaillé dessus, et puis ben, ça n'avait pas fait tilt. Et là, ça a fait tilt. Pourquoi dans 1 Samuel 15, 23, vous vous souvenez, Samuel lui dit « La désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance à Dieu ne l'est pas moins que l'idolâtrie. » Autrement dit, ok, c'est grave la divination, c'est grave l'idolâtrie, mais désobéir à Dieu, être rebelle à Dieu, c'est tout aussi grave. Et bon, ben, je pensais que c'était une comparaison, quoi. Et en fait, avec ce texte-là, je pense qu'il faisait allusion au fait qu'il avait soit chassé, soit tué, je ne sais pas, les spirites et les médiums du pays. Et il devait en être très fier. Et Samuel lui dit, mais tu sais, là, ta désobéissance, c'est pas mieux, hein. Et évidemment, nous, on ne se souvient pas, mais avec ce texte-là, on voit qu'en fait, il dit, oui, écoute, tu étais très fier d'avoir renvoyé les spirites, les médiums, etc. Mais crois-moi, la désobéissance à Dieu, c'est aussi grave. Voilà, et je pense que ce verset prend tout son sens. Ce n'est pas simplement une comparaison gratuite. Je pense que ça prend tout son sens quand on sait qu'il avait supprimé du pays tous ces gens-là. Alors, On va relire quelques textes fondamentaux à ce propos, parce que je pense que je les ai déjà lus la dernière fois. Et quelqu'un est venu me voir après et m'a dit « Mais moi, je ne savais pas que ces choses-là étaient interdites dans la Bible. » Du coup, on va les relire parce que je pense que c'est important. Et ça a beau être dans l'Ancien Testament, donc dans la première partie de la Bible, ça a autant de valeur pour nous parce que, comme la Bible, c'est un livre de relations, ce qui est mauvais pour la relation avec Dieu il y a 3000 ans, c'est toujours mauvais aujourd'hui. Et je vais donc relire attentivement hein, ces passages, ceux qui veulent les noter. Il y en a d'autres, mais j'ai pris ceux qui m'ont choqué le plus. Deutéronome 18, 9 à 13, où Dieu dit au peuple qui est sur le point d'entrer en Canaan, « Lorsque tu entreras dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. » Alors qu'est-ce que c'était ces abominations ? Vous allez voir, c'est pas beau. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Mais oui, c'est ce qu'ils faisaient, et les archéologues l'ont confirmé. On a retrouvé des ossements d'enfants, etc. C'est dingue. Pour que Dieu leur soit favorable, on était prêts, et c'est le texte qu'a lu André, tombe très bien, « Donnerai-je mon premier-né ?» Ben oui, ils donnaient leur premier-né, ils le jetaient dans un brasier. Non, ça fait froid dans le dos quand même. Hein. Personne qui... ne fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Et je précise qu'à cette époque, ça ne choquait pas. C'est ça que j'aime dans la Bible. C'est que pour pouvoir écrire ça, il fallait que ça vienne, non pas des hommes, mais de Dieu. Parce que c'était normal. Personne qui se livre à la magie, qui cherche des présages. Les Romains étaient très doués là-dessus. Hein. Je pense que vous l'avez fait, les enfants, en 6e, 5e, les augures. Personne qui cherche des présages, qui pratique la divination ou la sorcellerie, qui jette des sorts, qui interroge les spirites ou les médiums, qui consulte les morts. Alors, certains Français pourraient dire, ouais, mais nous, en France, on a passé ce stade. Alors, prenez un petit journal d'annonces et regardez le nombre d'annonces de médiums, de gens qui sont prêts à jeter des sorts sur vos ennemis, etc. Et on est en France. Et oui, on n'est pas mieux que d'autres pays, franchement. Et on a plus de médiums à Paris que de médecins. C'est, voilà. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est une abomination pour le Seigneur. Dans la Bible, c'est un mot très fort. Et c'est à cause, et c'est important ce mot, à cause de ces abominations que le Seigneur ton Dieu dépossède ces nations devant toi. Moi, quand j'étais petite et que je lisais la Bible, ça me choquait. Je disais, oh, toutes ces nations qu'il fallait supprimer là. Puis le jour où j'ai compris que c'est des gens qui jetaient leur bébé dans un brasier, j'avais envie de les tuer deux fois plus. Comment oser faire des choses pareilles ? Il faut rétablir la peine de mort. Bah oui, franchement, vous imaginez. Bon, ça c'est les réactions d'enfants. Mais... Donc c'est à cause de ces abominations que le Seigneur ton Dieu dépossède ces nations devant toi. Vous voyez, parfois on se demande, mais pourquoi il fallait ? Ah oui. Tu seras parfait. Alors attention, parfait dans la Bible, ça ne veut pas dire sans aucun défaut. Hein. Mais c'est intègre, indéfectiblement attaché au Seigneur. J'aime bien cette définition. Tu seras parfait, intègre, indéfectiblement attaché au Seigneur ton Dieu. Voilà. Alors ensuite, Lévitique 19, 26, 28, 31 et 20, 6. Alors vous gardez juste dans votre tête Lévitique 19 et 20. Hein. Mais il y a pas mal de versets, je les ai juste mis ensemble. Vous ne pratiquerez pas la divination et vous ne chercherez pas de présage. Entre parenthèses, vous ne vous ferez pas de tatouages, parce que les tatouages avaient et ont encore une signification spirituelle. Si vous en doutez, regardez un peu les vitrines des tatoueurs. Je suis le Seigneur. Ne vous tournez pas vers les spirites ou vers les médiums. Ne les recherchez pas. Vous deviendriez impurs à leur contact. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose à leur contact. Alors le mot impur, ça ne nous dit peut-être pas grand-chose. On est au XXIe siècle, on est en France. Mais il y a un sens. On en parlera un petit peu après. « Je suis le Seigneur votre Dieu. » Tu finis toujours avec ça. « Si quelqu'un se tourne vers les spirites ou vers les médiums pour se prostituer avec eux, » c'était un mot très fort, ce qui comparait le fait d'abandonner Dieu et de la prostitution, « Je me retournerai contre lui, je le retrancherai du sein de son peuple. » Et encore, « Vous deviendrez saint, vous serez saint, » c'est-à-dire consacré à Dieu et mis à part. C'est un mot qui est malheureusement et terriblement galvaudé. Essayez chaque fois que vous entendez le mot « saint » dans la Bible de penser « consacré à Dieu, mis à part et consacré à Dieu. » Parce que, voilà, nous en France, c'est vraiment ça avec sa petite auréole. Vous n'avez pas vu la mienne ? Si l'on vous dit, consultez les spirites. Ésaïe 8, 19, j'aime bien celui-là. Si l'on vous dit, consultez les spirites et les médiums qui chuchotent et murmurent. Il y a beaucoup d'humour dans ce texte, d'ailleurs. Ésaïe, il avait le chic pour faire passer des choses dans son langage. Si l'on vous dit consulter les spirites et les médiums qui chuchotent et murmurent, on imagine bien. Et un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Va-t-il s'adresser aux morts en faveur des vivants? Bon, il y a plusieurs traductions possibles, mais j'aime beaucoup celle-ci. C'est ça vraiment, mais enfin, réfléchissez les enfants, quoi. Vous n'allez pas vous adresser aux morts en faveur des vivants. J'aime beaucoup ce texte. Ensuite, vous avez, alors ça c'était Ésaïe 8, 19. Dans 2 Rois 21, il parle d'un roi de Juda qui s'appelait Manassé. Et imaginez, un juif pratiquant, roi de Juda, c'est une tribu d'Israël, il fit passer son fils par le feu. Il cherchait des présages et pratiquait la divination. Il installe des spirites et des médiums. Il installa des spirites et des médiums. Il contraria le Seigneur en faisant de plus en plus ce qui lui déplaisait. Déplaisait, c'est un mot faible, mais dans la Bible, c'est beaucoup plus fort. Et on va dire la même chose d'Israël dans 2 Rois 17-17. Et au sujet de la mort de Saül, c'est 1 Chronique 10-13, c'est très important ce texte. Saül mourut à cause des sacrilèges qu'il avait commis envers le Seigneur. Il avait tenu tête à ce que Dieu voulait. Parce qu'il n'avait pas observé la parole du Seigneur, il avait même eu recours au spiritisme. Vous voyez, et il y en a d'autres des textes, j'en ai pris juste quelques-uns. Alors si on veut aussi des textes du Nouveau Testament, donc la deuxième partie de la Bible, Actes 19-19, on voit que les livres de magie sont brûlés quand les gens acceptaient Jésus-Christ dans leur vie. Actes 16-16, la servante qui avait un esprit de divination, donc qui pouvait prédire l'avenir, au bout d'un moment l'apôtre Paul en a marre, et il chasse l'esprit de divination. Et la preuve que ça a été efficace, c'est que les propriétaires de cette servante, les patrons, ont fait chasser Paul parce que leur source de revenus était partie. Le problème, c'est que la divination, la magie, le spiritisme, ça, c'est fortement lié à l'argent. Bon, Ésaïe 47, versets 12 à 15, il s'agit de Babylone, qui est célèbre pour ses pratiques de magie, ses sortilèges, ses enchantements. Alors, on va lire rapidement Ésaïe 47, 12 à 15. Je crois que je l'avais préparé dans l'autre Bible, mais ça vous donne une petite idée. 47, 12 à 15. Et là, il y a aussi beaucoup d'ironie. « Reste donc au milieu de tes pratiques magiques et de la multitude de tes sortilèges, pour lesquels tu t'es fatigué depuis ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit. Peut-être parviendras-tu à inspirer de la terreur. Tu t'es fatigué à force de demander conseil. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve, ce qui quadrille le ciel, qui observe les étoiles, l'horoscope, ce qui annonce d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Ils seront comme de la paille, etc. etc. » Voilà. Donc là, il y a un petit peu d'ironie, mais ça vous donne une petite idée. Donc, on va s'arrêter là. La Bible est clairement contre ces pratiques-là. Et on comprend pourquoi. D'ailleurs, si vous aviez la curiosité ou si vous avez le courage de demander à votre médecin de famille combien de gens dans les hôpitaux psychiatriques ont pratiqué des sciences occultes, vous serez impressionné par le chiffre. Je le disais toujours à mes élèves parce que j'avais pas mal d'enfants de médecins à l'école, dans ma classe. Et je disais, demandez à vos papas ou à votre maman, ce que ça crée dans l'être humain, ces pratiques-là. On n'est pas fait pour ça. Alors, deuxième point, c'est la guerre. Les Philistins se rassemblent, dressent leur camp. Ça, je pense qu'on en a parlé la dernière fois, c'est encore les Philistins. Entre parenthèses, ceux chez qui David s'est réfugié. Ils se rassemblent, ils sont très nombreux, ils sont dans la plaine. Alors si vous voyez l'image, là, donc j'ai regardé, ils se répandent dans la plaine. Pourquoi ça les intéresse, la plaine? Parce qu'ils ont des chars et des chevaux. Et dans la montagne, les chars et les chevaux, c'est pas l'idéal, il n'y avait pas de route goudronnée, rappelez-vous. Et donc, ils sont mieux dans la plaine. Et Saül, lui, va rassembler ses troupes sur les collines, parce que, bon, pour une raison simple, lui, il n'a visiblement pas tellement de chars et de chevaux. Et sur les collines, il a une meilleure vue sur l'ennemi. Il voit les mouvements de l'ennemi. Donc, vous voyez, c'est tout simple, mais d'où l'utilité de connaître un petit peu. Vous voyez, quand vous lisez un texte biblique, pour bien voir les choses, de voir un peu la géographie. Le problème, c'est que de là-haut, vous avez bien vu, quand vous êtes en hauteur, on voit le nombre et la force de l'ennemi. On voit leur équipement. Et ça crée quoi ? De la peur, et le résultat, vous voyez, son cœur trembla beaucoup. Son cœur trembla beaucoup. façon de s'exprimer de l'époque, il était mort de trouille. Quand on regarde à nos problèmes, nos ennemis, entre guillemets, nos difficultés, plus on va les regarder, plus on les regarde comme ça, comme il regardait son ennemi, on perd courage. Et c'est normal. On est humain, on est normalement constitué. Et si je regarde mon problème, si je regarde mes difficultés, on est sensible à ce qu'on voit. Hein, on voit le diagnostic du médecin, on voit toutes les difficultés financières, on voit d'autres choses. Enfin, vous imaginez tous vos problèmes là, et vous gardez les yeux fixés dessus. C'est normal, c'est décourageant. Et il y a de quoi trembler. Je veux dire, on n'est pas des surhommes. Et même si on a la foi en Dieu, il y a de quoi trembler. Mais alors, il y a un autre problème, c'est que souvent, on ne voit pas la réalité. On croit voir quelque chose, et c'est vrai humainement, mais je pense toujours à cet exemple de Jéricho. Vous vous souvenez, quand ils ont tourné autour de cette ville, ce fameux Negro Spirit Falls, hein, Jericho, Jericho, et ils ont tourné autour de la ville et ils étaient morts de peur. Mais comment est-ce qu'on va ? Dieu veut qu'on remporte la victoire sur ces gens, mais ils ont une forteresse. Les murs de Jéricho, je ne sais plus, j'ai malheureusement pas la mémoire des chiffres, 30 mètres. Vous voyez, ils faisaient des murs souvent, ils faisaient un vide au milieu, ils remplissaient de cailloux. Enfin bon, on a fait la même chose au Moyen-Âge, mais 30 mètres. Donc comment est-ce qu'on va remporter la victoire ? Et puis tous ces soldats qui sont sur les créneaux pendant que nous, comme des crétins, on tourne autour là. Mais c'est complètement... Mais mettez-vous à leur place. Et qu'est-ce qu'ils pensaient ? Ben, on perd courage parce qu'on est moins fort. Et plus ils regardaient la forteresse de Jéricho, plus ils se disaient, on n'y arrivera jamais. Pourquoi Dieu nous demande de tourner autour ? Par contre, quand les espions sont allés à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Et je voulais recopier parce que je pensais que c'était important. Rahab, qu'est-ce qu'elle va dire aux espions ? Nous avons perdu courage et nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu. Ah, si notre ennemi, nos difficultés, etc., pouvaient nous dire la même chose. Parce que c'est votre Dieu qui est Dieu. Et quand le peuple qui tournait autour pouvait penser que c'était imprenable, c'était horrible, c'était écrasant, à l'intérieur, il tremblait. Et souvent, je le dis, hein, les gens qui me connaissent le savent, n'oublie pas que ça tremble au cœur de Jéricho. Toi, tu vois la forteresse, tu vois les difficultés, etc. Mais c'est peut-être pas si désespéré que ça, si on regarde à l'intérieur. Et c'est pour ça que la Bible nous encourage souvent à lever les yeux. Elle nous encourage à lever les yeux, à regarder à Jésus et à ce qu'il a fait pour nous. Et là, c'est pas l'autruche, hein. Je mets ma tête dans le sable et tout va bien. Non. Il ne s'agit pas de nier le problème, hein. Vous savez, quand il tournait autour de Jéricho, il n'était pas question de dire « Jéricho n'existe pas ». Mais levons les yeux. Oui, la difficulté est là. Oui, nos ennemis, entre guillemets, que ce soit nos pensées, que ce soit d'autres choses, c'est là. Oui, c'est là. Mais Dieu est plus grand et je lève les yeux vers lui. Donc soyons bien au clair qu'il ne s'agit pas de nier la réalité, mais de lever les yeux vers notre Dieu. Alors Saül voit l'armée des Philistins, lui il a peur, et réflexe, qui va être tout à son honneur quelque part, je vais interroger le Seigneur. Bon, c'est un bon réflexe, on l'avait dit la semaine dernière, mais le problème c'est que le Seigneur, Dieu n'est pas une machine à sous. Je mets ma pièce et le truc doit tomber. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à gérer. C'est que Dieu, il a une volonté propre. Il est Dieu. Il est bien au-dessus de nous. Comme il dit, mes voix sont au-dessus de vos voix, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Et il ne s'agit pas de mettre notre pièce et d'attendre que ça descende. Et donc, il va consulter Dieu. Mais le problème, c'est que Dieu ne répond pas. Et Saül, alors, la première fois, j'avais un peu de compassion pour Saül. Je me dis, quand même, c'est triste. Il fait l'effort d'aller voir Dieu et Dieu ne lui répond pas. C'est un peu dur, quand même. Il aurait au moins pu lui répéter, je ne suis pas content de toi. Non, il ne dit rien. Et le problème, c'est que Saül savait très bien ce que ça voulait dire. La preuve, c'est quand il y a eu l'histoire de Jonathan, il a dit, ah, j'ai relu le texte, Dieu ne répond pas, parce que quelqu'un a péché. Le péché est une muraille entre nous et Dieu, la désobéissance. Donc il le savait. La dernière fois où c'est arrivé, donc ça, ce texte est dans 1 Samuel 14, 38, hein, il avait très bien compris que Dieu ne répondait pas parce qu'il y avait un péché qui coupait la relation avec Dieu. Ah, c'est logique. cette fois-là, c'était Jonathan qui avait été désigné comme le coupable, c'était vrai, etc. Il fait un serment inconsidéré. Mais là, il sait. Mais il ne va pas prendre le chemin de la repentance. Et ça, c'est fou. Il sait qu'il y a un péché qui empêche Dieu de lui répondre. Mais il ne bouge pas. Il accepte ça. Le seul chemin qui pouvait rétablir sa relation avec Dieu, il n'y pense même pas, je ne sais pas comment il fait, ou il refuse. La seule chose qui pouvait lui redonner du courage, comme lors de ses premières batailles, vous vous souvenez, à Yabesh, il avait été fantastique. Il ne le fait pas. Il ne retourne pas vers Dieu. Il sait très bien, mais non, il ne veut pas. Alors, on peut se poser la question pour nous aussi. Il y a des moments dans notre vie de chrétien, il se trouve qu'on n'est pas des surhommes. On a découvert ça. Et il y a des moments où Dieu garde le silence. Alors, il y a des chrétiens qui ont vite la solution. Vous avez péché. Ah, voyons. C'est le plus simple. C'est le cas le plus simple, parce que c'est le plus facile à régler. On demande pardon à Dieu. Mais il arrive que Dieu garde le silence. Et on a l'impression, quand on prie, qu'il nous ignore. Bon, je pense que ça vous est peut-être jamais arrivé, mais moi, oui. Et c'est dur à vivre. Alors, bon, j'ai essayé de faire un petit résumé de ce qui peut se passer. Alors, on peut être dans le même cas que Saül. Ésaïe 59, 1 et 2. « Non, le bras du Seigneur n'est pas trop court pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. » Mais ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. Ce sont vos péchés qui le détournent de vous. C'est-à-dire que nos fautes, nos péchés, c'est logique, on en fait. Ils s'élèvent comme un mur. J'aime bien le petit sketch qu'on faisait avec les enfants où il y avait un grand tuyau là et ils jetaient plein de déchets dedans. Et après, ils ne pouvaient plus passer dans leur tunnel. Il n'y avait plus d'accès à Dieu. C'est un peu ça. On fait des tas de choses qui ne vont pas, on le sait, mais bon, allez. Et puis on l'ignore. Et puis un jour, on s'aperçoit qu'on ne peut plus contacter Dieu parce que tous ces déchets, là, ont bouché le passage. Ça dit bien ce que ça veut dire, en tout cas. Et là, ça vaut la peine de demander au Seigneur, parce que parfois on sait, mais parfois on ne sait pas exactement, on pressent. La prière de David, psaume 139, verset 3. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » C'est important parfois de dire « Seigneur, je ne sais pas exactement, mais je sens que... » Quand je prie, j'ai l'impression de, comme disaient les vieux autrefois, ma prière dépasse pas le plafond. J'aimais bien cette expression. Ça peut arriver. Auquel cas, voilà, on prie cette prière. Seigneur, je ne sais pas ce qu'il y a. Si on sait, on demande pardon à Dieu. Mais parfois, on ne sait pas très bien et on a besoin que Dieu nous montre. Mais une fois qu'on a mis les choses en règle, pourquoi est-ce que Dieu reste silencieux? Alors, pour les chrétiens, ça peut être un temps d'épreuve de notre foi. Ça, j'aime pas ça du tout. Mais pas du tout. Où on est appelé à marcher par la foi, peu importe ce qui se passe. Et ça, j'aime pas du tout, du tout. Romains 1, 17, mon juste vivra par la foi, en s'appuyant sur les promesses de Dieu. Ça, c'est pas facile. Mais on a une grâce formidable. On a la Bible, nous. Saül, il l'avait pas, il avait juste quelques livres de la loi. Et encore, c'était les prêtres qui l'avaient. Est-ce qu'ils l'avaient emmené avec eux, Abiathar, j'en sais rien. Quelques textes. Nous, on a une grâce formidable. On peut chercher dans la Bible. Et dans la Bible, on va trouver la force, le réconfort et le soutien dont on a besoin pour les moments de désert ou de silence. Mais ces temps où il faut marcher par la foi, c'est pas simple. C'est pas simple. Parfois, c'est même plus que douloureux parce qu'on est dans l'angoisse, on ne sait pas trop pourquoi. Et cette semaine, j'ai relu un peu les procès du sang contaminé. J'ai lu parce que jusqu'à présent, je n'avais pas pu les lire. Et je voulais un peu des nouvelles du médecin qui avait soigné les enfants. Et j'étais contente d'apprendre qu'elle avait eu un procès. On est assoiffé de justice, même étant vieux. Et j'avais ces temps où j'avais l'impression que Dieu était silencieux. Il y avait cette bouteille de produits dans mon frigo. Chaque fois que je la regardais, j'avais une angoisse. Je me disais quand même... Pour une chrétienne, c'est pas bien d'être angoissée comme ça. Jusqu'au jour où j'ai mis cette bouteille à la poubelle, malgré le prix, à peu près
1000 euros.
Ouais, 1000 euros. Et en lisant les procès du sang contaminé, j'ai vu que, donc ça date de cette semaine, j'ai vu que tous les produits. À l'époque, je me disais j'avais une chance sur deux qu'il soit mauvais ce flacon. Et en fait, j'ai lu qu'à ces dates-là, tous les flacons non chauffés amenaient le sida. Tous. 2500 hémophiles sont morts. Sur 5000, donc la moitié. Vous voyez, des moments où on se dit, mais pourquoi cette angoisse? Donc je comprends bien l'angoisse de Saül, là, devant son ennemi. Moi, c'était cette bouteille-là qui me préoccupait. Et je remercie Dieu, parce que d'accord, il a peut-être été silencieux, mais il m'a parlé au travers de cette angoisse. J'ai tellement été angoissée qu'à la fin, j'ai pris cette bouteille, j'ai jeté, et je ne savais pas vraiment, je n'étais pas sûre. Même encore là, cette semaine, j'ai appris que tout s'était contaminé, mais à l'époque, je pensais que c'était une sur deux ou une sur trois. Donc, vous voyez, maintenant, je sais que... Bah, au travers de cette angoisse, Dieu m'a parlé. Et j'avais l'impression qu'il était silencieux. J'avais vraiment l'impression qu'il était silencieux. Donc voilà, c'est important. Et à ces moments où on marche par la foi et on ne comprend pas trop ce qui se passe, heureusement, on a la parole de Dieu. Alors parfois, eh ben, Dieu veut simplement qu'on le cherche. Ça, c'est déjà plus agréable que marcher par la foi. Je trouve ça un peu dur. Parfois, Dieu veut simplement qu'on le cherche. Ésaïe 45, 15. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Vous allez me dire, mais pourquoi? Si le Dieu, pourquoi il se cache? Eh bien justement, parce que ce n'est pas une machine à sous. Il y a un respect qui est dû à Dieu. Il y a un honneur. Et il veut qu'on le recherche. Ce n'est pas un copain d'école, c'est pas on lui tape sur le ventre. C'est vraiment quelqu'un qu'il faut, aller le voir, on le cherche. Il y a cet élément de recherche. Et ça se comprend, il est Dieu. S'il est Dieu, on ne va pas le traiter comme... n'importe qui, notre chat ou notre chien. Hein, il est Dieu, donc il faut qu'on le recherche, qu'on prenne du temps pour lui. Il se laisse trouver. Il y a aussi ce verset. Il se laisse trouver. Alors vous savez, ce jeu qu'on fait quelquefois avec les petits-enfants, on se cache, puis ils nous cherchent, on ne dit rien, on ne fait pas de bruit. Ils sont tellement contents quand ils réussissent à nous trouver. Mais il y a un peu de ça, ce n'est pas un jeu pour Dieu. Ce n'est pas un Dieu parce que c'est lié à l'alliance qu'il a fait avec nous et il veut qu'on rentre dedans. Mais il se laisse trouver. Il ne complique pas les choses. Attention. Et ceux qui disent « Oh, c'est impossible de toucher Dieu, etc. » Non, non, ce n'est pas vrai. Il se laisse trouver. Mais ça demande de notre part une recherche. Et c'est normal. Il aime qu'on l'honore suffisamment, qu'on le reconnaisse comme Dieu, pour persévérer, pour chercher sa pensée et sa volonté. Et j'aime beaucoup ce verset qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Parfois, il faut simplement arrêter de faire ce qui nous semble bon. Oh, mince, ça c'est dur. Comme le peuple d'Israël au temps des juges. Quand on suit nos pensées, nos envies, notre volonté, sans tenir compte du tout de ce que Dieu demande dans sa parole, la conséquence est souvent que, il ne nous parle plus. La parole de Dieu était rare en ce temps-là. 1 Samuel 3:1. Quand on veut faire ce qu'on veut, voilà, parfois il faut s'arrêter. Alors David, au chapitre précédent, lui, il n'a pas consulté Seigneur, vous vous rappelez. Il a suivi sa logique humaine, il a suivi son découragement, ses pensées, sa chair. Et nous aussi, on fait souvent comme lui. On remplace la parole de Dieu par nos idées. On adopte des attitudes du monde environnant, à toute époque. Et à certaines époques même, c'est au temps de Jérémie, ceux qui veulent relire le livre de Jérémie, il y a de quoi, il y a du travail. Israël est allé même jusqu'à se donner des prophètes qui lui disaient ce qu'il voulait entendre. Ah, ça, c'est sympa. On allait chercher la parole de Dieu en s'assurant que le prophète allait dire ce que nous, on veut entendre. Ça, c'est dangereux. Et Dieu n'était pas du tout content de ça. Il y a plusieurs chapitres, je n'ai pas le temps de venir dessus, mais où vraiment il réprouve ce genre de conduite. Et les prophètes rassuraient le peuple en lui donnant des mensonges. Saül, lui, va chercher une réponse de Dieu pour savoir ce qu'il doit faire face à l'armée. Lui, il avait visiblement cette habitude avec Samuel, quand il était près de lui. Mais le problème, c'est qu'il ne cherche pas à comprendre le silence de Dieu. Parce que c'est vrai que parfois, on peut avoir compassion de lui en disant « bon, le pauvre ». Mais pourquoi il ne cherche pas à comprendre? D'autant plus qu'il savait. Quand Dieu se tait, il y a une raison. Il ne tient pas du tout compte de ce que Samuel lui avait dit non plus. C'est marrant. Il aimait bien prendre conseil auprès de Samuel, mais Samuel lui avait dit « tu sais que tu as désobéi là ». Bon, apparemment, ça ne le préoccupe plus du tout. Il veut une réponse. Il n'essaie même pas de demander pardon à Dieu. C'est ça qui fait mal au cœur dans la vie de Saül. Il n'essaie pas. Il ne reconnaît pas et il ne veut pas demander pardon à Dieu avant de l'interroger. Il aurait pu dire, « Seigneur, je te demande pardon. Si tu te tais, c'est que j'ai dû accumuler pas mal de bêtises. » Il veut une réponse. Je veux ce que je veux. Et à n'importe quel prix. Il ne tient absolument pas compte de qui est Dieu, aucune crainte de Dieu. Et Simon Polite nous disait que le danger de l'Église aujourd'hui, et il en a parlé avec son pasteur en Autriche, disait, c'est que les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Alors il ne s'agit pas d'avoir peur et de trembler. Non, mais c'est cette crainte respectueuse. C'est embêtant quand même. Alors, pour Saül, si Dieu ne répond pas par les moyens habituels, normaux, recommandés, eh bien on va obtenir la réponse par l'occultisme. Après tout, ceux-là aussi, ils ont des réponses. Hein. Voilà. Alors, attention à nous aussi. Je pense qu'on vit dans une période qui n'est pas forcément facile. On vit dans un pays, en plus, qui idolâtre la laïcité ou l'idée de Dieu. C'est pour la sphère privée. Et attention, dès qu'on parle de Dieu, alors on peut comprendre pourquoi ils réagissent comme ça, mais même avant, l'islam, c'était déjà en chemin. Et on aimerait bien revivre un réveil spirituel où les gens se tournent vers Dieu, comme mes parents l'ont connu dans les années 30, 40, 50. En France, il y a quand même eu des belles choses. Et on peut se dire, mais pourquoi Seigneur ? Alors attention de ne pas faire comme Saül. Je veux une réponse. Je veux un réveil. Alors je l'aurai. Je veux des signes, des miracles, je veux l'intervention des anges, vous pouvez imaginer tout ce qu'on veut. Je veux. Et on passe outre ce que le Seigneur a dit dans sa parole. On ignore ses interdictions, pourvu que ça marche. Et si ça marche, c'est bon. Même si ça n'a rien de biblique et si c'est carrément même opposé à la volonté de Dieu. Donc attention, tout ce qui marche n'est pas nécessairement bon. Si on est face à un silence de Dieu, eh bien on le recherche. Si c'est nos fautes qui nous éloignent de lui, ben on demande pardon. S'il nous invite à marcher par la foi, ben on s'appuie sur sa parole. C'est vrai que c'est pas facile. Mais arrêtons de faire ce qui nous semble bon, selon notre logique, notre façon de voir et de penser, et cherchons à rester conformes à la volonté de Dieu, aux enseignements de la Bible. C'est ce que moi j'en retire pour moi-même. Verset 7, Saül dit aux gens de sa cour, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts. » Ben voyons. Moi, je ne sais pas, j'aurais été... Peut-être, je suis peut-être un peu trop libre, mais je lui aurais dit, « Écoutez, majesté, franchement, vous les avez tous fait tuer. Pourquoi maintenant vous en voulez ? Vous les avez chassés du pays. » Je ne sais pas ce que veut dire « éliminer » dans ce texte. Cette fois encore, on constate que David avait raison. Saül est mal entouré. On avait déjà remarqué que ses courtisans le remontaient contre David, je l'ai dit tout à l'heure, il se laissait fortement influencer. Mais là, ce qui m'a choqué, c'est qu'aucun des hommes de Saül ne lui a déconseillé de le faire. C'est des juifs, ils connaissaient tous ces textes que je vous ai lus, enfin la première partie qui est dans le Deutéronome et le Lévitique, ils avaient ces livres-là. Les hommes de Saül ne lui ont jamais déconseillé de voir une nécromancienne. C'est dingue ça, des vrais courtisans. Vous savez ce que fait un vrai courtisan ? Il flatte et il voit son propre intérêt. Et combien de gens en responsabilité, que ce soit dans la politique ou dans les églises ou n'importe quoi, n'ont pas été protégés par leur entourage. Soit ils ont été cassés par des attaques ou par la flatterie, mais dans les deux cas, ils sont cassés. La Bible dit « Priez les uns pour les autres. Si ton frère a péché, va et reprends-le. » Avec amour, bien sûr. « Suis-je le gardien de mon frère ?» dira Caïn. On peut honorer et protéger un responsable en le prévenant. Là, tu t'éloignes de la parole de Dieu. C'est pas toujours facile, ça peut fâcher, mais le critère n'est pas, bien sûr, il fait quelque chose qui ne me plaît pas, parce que ça, nous, on n'est pas une référence, mais il fait quelque chose qui ne va vraiment pas en accord avec la parole de Dieu. Alors, il ne s'agit pas des petits détails, hein, on passe sur la couleur de la moquette, mais des choses importantes, fondamentales pour la vie de l'Église. Alors après, on s'aperçoit que Saül se déguise. C'est marrant ça, pour un roi, d'enlever ses vêtements royaux. Je ne sais pas si ceux qui aiment bien l'histoire, ça leur rappelle quelque chose. Louis XVI, il s'est déguisé en quoi lui déjà ? Boulanger ou ? C'est ça, hein ? Et oui, quand on a peur, vous voyez que le cœur de l'homme n'a pas changé. Là, ce texte-là, on est à moins 3000 par rapport à nous. Et puis, Louis XVI, ce n'est pas si loin que ça, hein ? 200 et quelques. Eh bien, le cœur de l'homme est toujours le même. Un roi qui tremble de peur, il se déguise. Eh ben voilà. Alors, je me suis demandé pourquoi il se déguisait. Bien sûr, il a peur, mais il veut pas que la femme le reconnaisse. Parce qu'imaginez sa réaction. Ah, le roi Saül ! Ah, c'est lui qui a fait tuer tous mes collègues. Dégage ! On peut penser aussi qu'il veut sortir un peu de son rôle de roi. Dieu lui avait déjà ôté, d'ailleurs, entre parenthèses. Et alors, ce qui est curieux, c'est que la femme, après, vous avez remarqué dans le texte, elle lui rappelle son interdiction. Et j'y vois là la grâce de Dieu, qui encore une fois, au travers de ça, dit « Saül, Saül, mais regarde où tu en es !» Et ça, c'est formidable. Dieu n'est pas content de lui et tout, mais il lui tend encore une perche. Et elle lui dit « Pourquoi me tends-tu un piège? Pourquoi veux-tu me faire mettre à mort, Saül ?» etc. Alors là, c'est choquant. C'est choquant parce qu'il est tombé tellement bas qu'il renie même ses lois, ses propres lois. Et il se sent le droit de dire « Ok, c'est interdit par Dieu, mais on le fera quand même. » Aïe. Et il va même plus loin puisqu'il va jusqu'à dire « Par la vie du Seigneur, aucune faute ne te sera reprochée. » Mais comment il peut se permettre ça? C'est incompréhensible, hein? Et il faut qu'il ait atteint un point de désespoir incroyable pour arriver à dire ça. Comment est-ce qu'il peut utiliser le nom du Seigneur pour une activité complètement interdite et clairement interdite? Il se place en fait au-dessus de Dieu et au-dessus de ses lois. C'est moi qui décide ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. D'ailleurs, on se trouve en ce moment dans un pays qui décide aussi ce qui est bien et pas bien, sans tenir compte de beaucoup de choses, de la vie d'un enfant. Hein. Je lisais encore dans les nouvelles, tragédie, une femme enceinte de, je ne sais plus combien, 5 mois, 6 mois, a été tuée dans un accident, etc. Tragédie, parce qu'elle était enceinte, et c'était un vrai bébé. Mais quand il s'agit d'un avortement, c'est un amas de cellules. Donc on vit dans un monde qui relativise, et qui décide ce qui est bien et mal pour nous. Alors dans certains cas ça va, ils ne se trompent pas, dans d'autres c'est quand même embêtant. Et puis il y a aussi un autre où, chez tout le monde, mais oui mais là c'est une exception. C'est une exception. Et je pense que Saül, comme tout le monde, a pensé qu'il était une exception. Et quand on est amené à faire des choses qui ne sont vraiment pas correctes, on pense que c'est une exception. Mais je suis une exception. Et je pense que ce jour-là, il veut dire, mais c'est une exception parce que, voilà, je suis dans la purée, là, personne, Dieu ne me répond pas, Samuel n'est plus là, c'est une exception. Attention, quand vous commencez à penser que vous êtes une exception, danger. Alors il y a un autre point sur lequel je voulais insister, c'est que de nombreux médiums, spirites, guérisseurs, tout ce que vous voulez, gourous en tout genre, ils se réclament de la Bible, du nom de Jésus, tout en trafiquant avec des choses qui ne sont pas claires. Et on voit déjà ça dans le Nouveau Testament. Acte 19, verset 14, si vous voulez le noter. Et Jésus l'annonçait déjà dans Matthieu 7, un texte qui fait peur. Alors, peut-être on va juste prendre un petit peu le texte d'Acte 19. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades, etc., etc. Quelques exorcistes ambulants, des juifs, entreprirent de prononcer sur ceux qui avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus, celui que Paul proclame ». Il y avait sept fils d'un certain Séva, un des grands prêtres juifs qui faisait cela. Et l'esprit mauvais leur répondit « Jésus, je le connais, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit mauvais se jeta sur eux, prit l'avantage et les battit tous avec une telle force qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. On peut se servir n'importe comment du nom de Jésus. Faire attention. Et Jésus l'annonce dans Matthieu 7, c'est un texte qui nous fait mal, mais malheureusement, il est là, on ne peut pas l'enlever. Et je crois que ça peut nous parler aussi. Ce ne sont pas tous ceux, donc c'est Matthieu 7, 21, ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas par ton nom que nous avons parlé en prophète, par ton nom que nous avons chassé des démons, par ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles, alors je déclarerai « Je ne vous ai jamais connu ». Donc vous voyez, ce n'est pas le fait d'utiliser le nom de Dieu, de se prétendre chrétien, etc., qui fait une différence, ou même de chasser, guérir, etc. C'est notre relation, on revient toujours à ça, hein, notre relation personnelle avec Dieu. Alors, je vais peut-être m'arrêter là, malheureusement, je n'étais pas consciente de la quantité de matériel, comme d'habitude, mais je pense qu'on reviendra sur le reste de cette histoire la prochaine fois, mais je voulais juste dire... Pour terminer, en interdisant les pratiques occultes, la Bible nous protège. Le monde occulte n'est absolument pas fait pour nous. Pas du tout. Et c'est pour ça qu'il y a tant de gens en psychiatrie. Tous ceux qui ont touché à ces choses-là, ça déstabilise. Notre psychisme n'est pas fait pour ça. Notre corps réagit mal aussi. Il y a quelque chose. Alors moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. On ne sait pas tout. Hein. Il y a un verset qui dit « Les choses cachées sont à l'éternel ». On ne comprend pas tout. Mais on voit les conséquences. Et un médecin psychiatre pourrait nous l'expliquer certainement, mais ça déclenche des choses. Quand tu dis ça, c'est impur, ça vous rendrait impur, je pense que voilà, ça déclenche des choses qui ne marchent plus dans notre cerveau. C'est étrange. Et le monde occulte n'est vraiment pas fait pour nous. On n'est pas constitué physiquement et psychologiquement pour contacter le monde des mauvais esprits. Et il est vrai que dans toutes nos cultures familiales, locales ou nationales, on trouve presque toujours des éléments d'occultisme. Et ça, c'est dingue. De magie, de divination, de culte des morts, de pratiques occultes, de guérison, hein, les guérisseurs, les rebouteux dans les campagnes, etc. Et ce problème, après un deuil, beaucoup de gens sont tentés de communiquer avec la personne décédée. Et je pense qu'on y passe tous après un deuil. On sent le besoin de parler à cette personne qui n'est plus là et qui nous manque. Je sais qu'avec ma sœur, par moments, quand ma mère est décédée, on avait le réflexe de dire « on va lui téléphoner ». Oui, elle n'est plus là. Vous voyez, c'est normal, c'est humain. Mais Dieu nous demande de ne pas le faire. Ces pratiques ne sont absolument pas neutres et elles laissent des traces dans nos vies. Il ne s'agit pas de loisirs, d'amusement ou de soulagement, suivant les cas. Ça crée beaucoup d'autres problèmes. Et il y a des gens qui se retrouvent, après avoir fait ces choses-là, avec une accumulation de difficultés, des relations difficiles, quasiment impossible de lire ou de comprendre la Bible. Ça, c'est quelque chose d'intrigant. Que souvent, les gens qui sont passés par là, ils ont un mal à lire la Bible. Ils veulent. Mais voilà, s'ils n'ont pas demandé pardon à Dieu, c'est impossible. Ils n'arrivent pas à comprendre la Bible, ils n'arrivent pas à la lire. Difficile de prier, de mettre sa foi en Dieu. Les relations sont parfois difficiles avec les autres gens, avec les chrétiens. Des gros blocages affectifs ou intellectuels, des cauchemars, des angoisses. J'en cite qu'une partie, je crois qu'on l'a fait aussi dans la maison d'Élie. Les succès dans les relations avec ces gens ont toujours un prix à payer. Alors moi je pense aux acteurs de cinéma, aux chanteurs, aux hommes politiques qui hélas ont beaucoup recours à ces choses-là. Mitterrand était un grand adepte. Mais bon, cherchez un peu, vous en trouverez d'autres. Et c'est toujours compensé par des catastrophes. Et c'est aussi un terrain favorable à toutes sortes de malédictions, de choses qui ne vont pas. Alors Dieu nous laisse libres. Dieu, vous pouvez le suivre ou pas le suivre, il vous laisse libre. Vous pouvez repartir, il vous laisse libre. Par contre, Satan pose des liens et il vous tient. C'est marrant, hein, c'est effrayant ces choses-là. Et je pense à une personne de mon village, je pense que Vine va deviner qui c'est, qui allait tout le temps voir un magnétiseur. Et elle aimait Dieu, et je lui avais dit, mais fais pas ça. Tu te crées des liens, il te guérit d'un truc, mais tu vas voir autre chose derrière. Et elle a continué. Hein. Et elle a vécu vraiment des choses, j'ai pas le temps de vous dire, mais vraiment des choses très difficiles avec ses enfants. Sa fille, qui était une danseuse extraordinaire, a complètement, sa carrière de danseuse a été fichue pour un choc au genou sur une porte cochère. Enfin, et j'en cite, et son mari a été mal, enfin, il y a des tas de choses. Et je lui avais dit, mais fais pas ça, tu sais pas sur quoi tu t'engages. D'accord, il va te guérir d'un truc, mais tu vas avoir autre chose derrière. Et c'est souvent le cas. Donc si, pour terminer, je dirais, si vous avez eu contact avec ces choses-là, d'une manière ou d'une autre, ou si vous avez accompagné des parents ou des amis dans ce genre de consultation, surtout, reconnaissez-le et confessez-le à Jésus. Demandez-lui pardon. Faites pas comme Saül. Demandez-lui pardon. Et puis, il vous pardonne et il vous délivre. Parce que tous ces liens que vous avez récupérés en allant à droite, à gauche, tous ces liens qui vous empêchent d'avoir une vraie communion avec Dieu, qui vous empêchent de lire votre Bible, de prier, il va les briser. Il est capable de les briser. Et il vous pardonnera. Et mon idée, c'est que laissez la lumière rentrer dans votre cœur. Parce que lui, il chasse les ténèbres. Et occulte, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ténèbres. Et je dirai plus de choses la prochaine fois, mais je pense qu'on peut s'arrêter là et prier. Seigneur, j'ai fait comme Saül à un moment donné de ma vie. Pour telle ou telle raison, parce que j'avais peur moi aussi, parce que j'ai vécu des choses difficiles. J'ai eu recours à des choses qui ne sont pas bonnes, qui sont déséquilibrantes, sur un point de vue purement psychologique, mais aussi en tant que chrétien. Et même si c'était des pratiques qui sont reconnues par notre pays, par notre famille, c'est des pratiques interdites et qui nous font du mal, qui nous font authentiquement du mal. Et je parlais avec une jeune fille africaine il y a quelques années qui m'avait expliqué un peu dans quel marasme sa famille était. Parce qu'un tel jetait des sorts, un tel allait voir les guérisseurs, un tel... Enfin, je ne pourrais même pas répéter tellement il y avait un nœud. Et c'est dur, et c'est dur. Mais croyez-moi, en France, c'est peut-être plus discret, mais ça existe aussi. On ne pointe pas le doigt sur d'autres cultures, la nôtre à son compte. Donc vraiment, maintenant, je pense qu'on peut rentrer dans un petit temps de prière là-dessus, et puis on terminera notre texte la prochaine fois.
Juste avant de faire un appel à ceux qui soit sont conscients d'avoir été contactés par des guérisseurs ou se sont laissés aller, même tout petits, que vous puissiez venir devant, on va prier pour vous, pour couper ces liens. Ceux qui ont du mal à lire la Bible, ça arrive assez souvent, sachez que si vraiment vous avez le cœur de lire la Bible, vous n'arrivez pas, c'est qu'il y a des choses occultes derrière. Parce que l'ennemi voile. Vous avez peut-être obtenu une guérison, mais l'ennemi vous voile. Et ça, c'est occulte. Donc si vous avez du mal, ben, venez aussi, qu'on puisse discerner quel est l'obstacle. Juste pour confirmer ce que disait Michel, actuellement, les évangéliques, chrétiens évangéliques, rentrent dans ces choses. Au travers de la Kabbale, par exemple. C'est quoi la Kabbale ? C'est la Kabbale, elle a décrit tous les anges, l'angéologie, hein, les anges, et donc on joue avec les anges. Voilà. Mais sachez que les kabbalistes, les vrais, ils interdisaient à des hommes de moins de 30 ans de faire de la Kabbale, parce qu'il y en a qui mouraient. Si les kabbalistes savent que c'est dangereux, et que les évangéliques touchent à ça, on est vraiment dans des choses graves. Le yoga, par exemple, il y en a qui touchent au yoga, mais ceux qui en Orient déclenchaient dans les chakras, comment on appelle ça, les temples là, enfin, là où il y a les bouddhistes, ils mettaient 15 ans à déclencher la kundalini. Aujourd'hui, ça se déclenche tout seul. Il y en a qui le font dans des séminaires évangéliques. Donc, attention, on joue avec l'occultisme. On joue avec l'occultisme, soi-disant que c'est une nouvelle révélation. Et là, les chrétiens sont en très grand danger. Il y a un voile qui tombe sur eux et ils n'arrivent plus à interpréter la Bible. Comme Michel vous le montre, c'est une interprétation objective du texte. On se place devant une révélation que Dieu a fait, non pas ce qu'on fait dire au texte. Et on arrive maintenant à faire dire au texte en disant « Ah, c'est une nouvelle révélation ». Et quand on analyse la nouvelle révélation, en fait c'est une ancienne. C'est vieux comme le monde. Ils ne se rendent pas compte qu'ils découvrent l'eau chaude dans le monde occulte. Donc, faisons attention aujourd'hui aussi à ce que nous écoutons. Et dernière chose, même les inconvertis parlent de prophétie autoréalisatrice. Ça veut dire quoi ? C'est ce que Michel a dit. C'est-à-dire qu'on prophétise quelque chose qu'on a envie de voir qui va se passer. Donc forcément, on devient Dieu. On se prophétise à soi ce qu'on a envie de voir. Voyez. Donc même les inconvertis se rendent compte, en particulier aux États-Unis, c'est très courant. Et c'est le cas aujourd'hui. On fait des prophéties autoréalisatrices. Faisons attention, nous sommes en grand danger si nous ne revenons pas à la parole. Et si nous laissons la parole nous interpeller, pas nos pensées, pas nos expériences, pas... à partir du moment où on est dans l'expérience, eh bien, on est en danger. Donc je voudrais maintenant, on va fermer nos yeux, et ceux qui ont envie de venir devant pour être libérés de choses dont ils ont été esclaves, dont ils ont été dans le passé, eh bien, eu des choses dans le monde occulte, ou qui ont du mal à lire la Bible, et venez devant, on va prier pour vous. Amen. Peut-être, David, tu peux mettre un petit son sonore pour que nous puissions demeurer tous ensemble. Ceux qui sont à leur place, bien prier pour ceux qui s'avancent. On va prier. Seigneur, merci de ce temps de libération que tu accordes à tes enfants. Parce que, Seigneur, nous voulons être vraiment libres. Libres de te suivre. Amen.